Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour peut-être l'avant-dernière, peut-être l'avant-avant-dernière. En tout cas, je suis toujours accompagné d'Arnaud Beurdelet, l'excellent, le meilleur journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, comme chaque semaine, Raph va d'abord nous servir son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Yann Delegue, ancien demi d'ouverture du 15 de France, 20 sélections au compteur, le petit Mozart du rugby français, c'était son surnom à l'époque. Il a porté les couleurs notamment du RC Toulon et du Stade Toulousain. On va donc évidemment parler de cette finale du top 14 entre son ancien club et le Stade Rochelet. Mais on va aussi parler de l'Eden Park Water Rugby, un événement exceptionnel organisé pour la 5e année à Toulouse du 29 juin au 2 juillet. Un événement que Yann a imaginé et qui régale tous les ans dans la Ville Rose. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, et évidemment sur toutes les plateformes Eurosport. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison, même s'il ne reste que quelques numéros, ce seront peut-être les meilleurs. Alors si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Rafut, saison 6, épisode 41, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, cette semaine, on va parler de rugby. Ça change un peu, tu le dis toujours, tu n'es pas le plus grand stratège, le plus grand technicien. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, on va parler de rugby parce qu'au programme, finale de rêve, samedi au Stade de France, les deux meilleures équipes de la saison s'affrontent pour le bouclier de Brennus, le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. Et visiblement, ça t'a inspiré.
Bah oui, la hiérarchie a été respectée. Hein. Les deux meilleurs de top 14 sur la saison régulière se retrouvent en finale. Oui, Arnaud, on a vu deux rouleaux compresseurs, sûrs de leur force, affronter pour Toulouse une équipe fantôme, celle du Racing 92, et pour La Rochelle, une équipe bordelaise, avec un peu plus de ressources et de combativité que l'apathie offerte par les ciels et blancs. Alors, c'est bien simple, j'ai eu un ami qui m'a dit qu'il était avec ses potes à Saint-Sébastien, Franck Glaser, pour ne pas le citer, et il m'a dit qu'il ne s'est jamais autant fait chier depuis bien longtemps. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des demi, mais bien de la finale ce week-end au Stade de France. Deux équipes qui survolent, comme je disais, le top 14 et la Coupe d'Europe depuis 4 ans maintenant. La Rochelle, son public, sa ferveur, son ses supporters, ses avant destructeurs, son titre de Coupe d'Europe, sa confiance, son manager Ogara, son président Merlin, qui a structuré le meilleur club d'Europe actuellement et second du top 14, et le meilleur avant du monde, le capitaine Greg Aldrit. Et puis derrière, Toulouse, avec son passé glorieux, pas si lointain, son staff structuré à l'ancienne, c'est-à-dire avec d'anciennes gloires à tous les niveaux, de la formation jusqu'au pro et même dans les bureaux, jusqu'au président Didier Lacroix. Hugo Mola, digne successeur dans le palmarès et fidèle au jeu à la toulousaine, prôné par le GOAT Guy Noves, une constellation de stars à tous les postes, un public acquis à la cause du « qui ne saute pas n'est pas toulousain » et le meilleur trois quarts du monde actuellement est capitaine Antoine Dupont. Oui, il y a deux meilleurs joueurs du monde selon moi, un avant jaune et noir et un trois quarts rouge et noir. Ça équilibre, je fais ce que je veux, c'est ma ruade et c'est ma chronique. Bref, secouez-moi tous beau bordel coloré, chantant, et vous obtenez une finale rouge et noir et jaune samedi soir au Stade de France. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me frotterai pas à tenter un pronostic. Déjà, quand en normal, je suis complètement catastrophique. Je préfère sortir les pop-corns et que le meilleur.
Allez, deuxième partie dans Poulain Rafut. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'ancien demi d'ouverture du 15 de France, Yann Delegue. 20 sélections au compteur, hein, le petit Mozart du rugby français. C'était son surnom à l'époque, on l'a dit. Il a porté les couleurs du RC Toulon, évidemment, et du Stade Toulousain. On va donc évidemment parler de cette finale de top 14 entre son ancien club et le Stade Rochelet. Finale samedi au Stade de France. Mais on va parler aussi, évidemment, de l'Eden Park Water Rugby, un événement exceptionnel organisé pour la 5e année à Toulouse du 29 juin au 2 juillet, un événement qui mêle rugby, fête et stars de l'Ovalie. Et ça, Raph, je crois que tu avais envie d'en parler, c'est bien ça?
Tu sais, Arnaud, je parle toujours de la connerie du fond du bus et tu vois des mecs qui sont un peu cintrés pour aller jouer sous la neige. Et je vais en parler dans le portrait d'Yann dans pas longtemps. Et pour jouer sur une barbe à Toulouse et bientôt à Monaco, d'après ce que j'ai compris, et peut-être à Paris, mais ça, on va négocier ça autour d'un apéro en troisième mi-temps. Yann avec Pierrot Rabadan qui s'occupe au-delà des JO de la Seine et d'assainir la Seine. Donc la Seine, ça tout à fait prête pour te recevoir, Yann. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment t'en arrives à trouver des idées aussi débiles dans le bon sens du terme, hein, aussi folles, on va dire, que de jouer sur l'eau, sur une barge au milieu de la Garonne.
Après avoir joué sur la neige.
Hein. Ouais, je pense que je
vais pas te surprendre. On va y revenir. Hein.
Je vais pas te surprendre parce que en fait toutes ces idées viennent de la bringue. C'est en bringue ou avec les potes. On dit et si on jouait là, et si on jouait là. Et puis le lendemain tu te réveilles, t'as un peu la gueule de bois, tu dis c'était pas si con cette idée. On va voir si on peut la mettre en place. Et sincèrement, que ce soit la neige ou que ce soit sur la plateforme flottante, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Alors après il y a eu du boulot. Après il faut faire les choses sérieusement. Mais ça part d'un délire à la con en soirée.
Je fais juste une parenthèse quand même. La neige, c'était l'apéro le midi. Moi, je l'ai fait une fois en 2013. Hein. L'apéro le midi, l'après-midi en descente. Le soir, tu joues dans ta. Tu représentes une station. T'es trois joueurs anciens pro. Alors maintenant, il y a des internationaux. Serge Betsen qui n'avait pas bougé d'un iota, le mec. Il devait faire toujours 170 en développé couché. Et tu avais surtout des amateurs qui étaient là en disant, tiens, pourquoi je casserais pas la bouche de ce pauvre rabanan, de ce pauvre poulain, de ce pauvre. Et tu te faisais laminer. Et après, donc après, tu avais la troisième et la quatrième mi-temps jusqu'à 7 h. Et tu enchaînais 6 jours comme ça pour aller dans une autre station. Yann, c'est la cinquième édition. Cette saison, on va parler du rugby sur l'eau. Ça sera du 29 juin au 2 juillet. Dis-nous tout, c'est quoi le programme? On voit au fur et à mesure sur les réseaux sociaux les internationaux qui sont inscrits au fur et à mesure, une constellation de stars. Quel est le programme sur ces jours?
Alors déjà, avant le programme, je te dis juste vite fait en quoi ça consiste, parce que toi tu connais, il y a plein de gens qui connaissent, mais j'imagine qu'il y en a un petit peu qui ne connaissent pas aussi. Donc on a
Grave.
installé une plateforme flottante sur la Garonne qui fait 40 mètres de large par 35 mètres, 40 mètres de long par 35 mètres de large. Rugby à toucher 5 contre 5. Le principe du jeu qui est spectaculaire, c'est que pour marquer des essais, faut plonger dans l'eau. Donc c'est ce qui rend le truc super spectaculaire et très festif. Donc le programme cette année, dès le jeudi 29 juin, il y a un tournoi des étudiants. Donc on va avoir 20 équipes étudiantes qui vont venir. Tous, ils vont arriver déguisés, ça va être une bonne humeur, très sympa. J'ai un village des partenaires qui anime avec 5 food trucks, 2 grandes buvettes, donc ça vit, ça bouge, c'est assez sympa. Donc le jeudi, c'est le tournoi des étudiants. Le vendredi, le tournoi des entreprises, 25 équipes entreprises qui sont là. Tous les jours sont agrémentés, bien entendu, de soirées derrière sur le port de la Dorade, hein, dans le
La
centre-ville.
base, quoi.
La base, bien sûr. Et le samedi, dimanche, c'est des joueurs amateurs, 40 équipes amateurs qui viennent s'affronter. Après, il y a une petite partie initiation pour les enfants,
Ah,
encadrés
génial.
sur nous. Du rugby fauteuil, ça c'est un truc de malade mental, c'est-à-dire c'est les mêmes règles. Les rugbymen en fauteuil se jettent dans la Garonne pour marquer. C'est des fauteuils adaptés, il y a une sécurité renforcée dans l'eau, c'est alors un truc de maboule, mais c'est toujours plus. En fait, cette année, c'est l'édition toujours plus. Toi, voilà. Et après, bien sûr, il y a les filles de l'équipe de France qui viennent, il y a Koumba Diallo, il y a Lénie Corson, il y a Camille Gracinet, il y a Shannon Izer, enfin, il y en a plein, c'est vraiment génial. Donc, un match de filles de très haut niveau. Et après, le tournoi aussi des All-Stars, le tournoi des légendes, où là, j'ai du lourd en joueurs qui nous ont rejoints cette année, français, étrangers, parce qu'il y a un petit focus Coupe du Monde quand même qui va arriver. Donc, voilà un petit peu le programme pour tous ces jours-là, avec bien sûr des soirées pour tous les soirs.
Fais-nous un peu de name dropping là, sur les stars. Quel va être le plateau justement de cette édition des All Stars? Parce que les All Stars, évidemment, All Stars écrit EAU apostrophe 2L.
Mais oui, il faut jouer avec les mots.
C'est qui le philosophe du groupe, Yann? C'est pas toi qui l'as trouvé, ça. C'est qui le philosophe?
Effectivement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, tu as raison. C'est pas un joueur, c'est un pote qui bosse avec moi sur l'événement qui est super efficace d'ailleurs. Son nom, c'est Christophe Bonnet et il a des bonnes idées.
Alors, c'est quoi ce plateau? Raconte-nous un peu.
Ah ben écoute, il y a du lourd aux joueurs français déjà. Damien Traille, Serge Betsen, Fabien Pelous, Emilienne Tamac, Vincent Clerc, Cédric Desbrosses, qui est tout mon compère qui organise tout ça avec moi, qui sera là aussi. Christian Califano. Qui sait, j'en ai plein, 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 des vieux de la vieille, des Thierry Louvet, des le guerrier indien de la rade, toi, des Toulonnais des années 90. Voilà, beaucoup, beaucoup de joueurs
Il
français.
joue à toucher les Toulonnais des années 90.
Ouais, alors on dit ça, touché à la niçoise, touché de pied. Donc, non, mais ils essayent
En
en
plus,
tous les
ça va être.
cas.
Yann,
Non,
c'est
mais du coup.
l'édition 2000. C'est un revival aussi des 20 ans du titre de Coupe d'Europe aussi. Donc, il va y avoir pas mal d'anciens de 2003 aussi
Exactement,
de votre
ouais.
titre Coupe d'Europe.
Voilà, Cédric Soulette, Yannick Bru, tous ces joueurs-là seront présents également, Christian Labitte et tout. Donc il y a vraiment du bon monde. Il y a aussi plein de mecs qui viennent d'arrêter, Rémi Lamora, Arnaud Mignardi, Benjamin Lapeyre qui n'est pas vieux non plus. Enfin voilà, tous des mecs qui ont été il n'y a pas longtemps et qui me disent, on vient avec plaisir, Damien Chouly, François Trinduc. Toi, il y a du lourd dans des jeunes retraités, donc ça c'est cool. Et puis après, il y a une équipe que je vais faire vraiment que d'internationaux étrangers. Et donc là, on a la chance d'avoir Carlo Spencer qui a fait rêver quand même les gosses pendant pas mal d'années,
Et pas que les gosses.
et pas que les gosses, la légende néo-zélandaise, ça c'est cool. On a aussi Mirko Bergamasco qui représente l'Italie, Johnny Beattie pour l'Écosse.
J'ai cru voir Dallon Armitage également.
Ouais, Delon et Stéphane, les deux frangins anglais, bien sûr, qui sont présents sur l'événement aussi. Humelé Fono du Tonga aussi qui est là. Je suis en train de voir avec un Japonais peut-être qui va venir aussi, Ono, Hitoshi Ono. Donc voilà, il va y avoir vraiment du très très lourd. Et puis voilà, ouais, c'est sympa parce qu'on a une chance incroyable. On fait un sport qui est juste dingue pour ça. C'est qu'on n'a pas de stars. On dit les All-Stars, machin. Mais en vrai, les mecs, ils se mélangent au public, ils signent des autographes, ils font des selfies avec des photos avec les gens, avec les enfants. Et ça, c'est la chance incroyable qu'on a, c'est que tout le monde se mélange et les joueurs sont là pour faire la promotion de leur passion qui est le rugby. Et en fait, c'est top parce que tu vois pas ça dans les autres sports, ce mélange, cet accueil du public comme ça, ou la proximité qu'il peut y avoir. Ça, on a une chance énorme et je remercie sans arrêt les joueurs de pouvoir faire vibrer finalement les fans de rugby par leur accessibilité, quoi. Et ça, c'est un atout qu'on a, il ne faut jamais qu'on change ça, quoi.
Yann, je pense que le rugby, on parle toujours d'humilité, mais je pense qu'il faut aussi te tirer un gros coup de chapeau. Moi, je l'ai vécu en 2013, et je parlais en mon cas perso, j'étais au fond de la gamelle en 2013, et ça a été une soupape. En fait, tu sais, c'est ces moments où tu es à la retraite, tu viens de t'arrêter, ou tu t'es arrêté il y a quelques années, mais tu es dans ta vie, entre guillemets, normale, et tu replonges les mecs dans une forme de nostalgie où, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, quand tu fêtes les titres d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, tu as toujours le relou du coin du bar qui retrouve au coin du bar, le relou qui te donne des grandes leçons, qui te donne toujours les mêmes leçons, les introvertis, et tu retrouves ces mecs-là, en fait, au fur et à mesure. Et je pense que c'est, et je te remercie, moi, d'avoir été invité à ce moment-là, parce que je n'étais pas international. Mais tu donnes la possibilité d'être dans une forme de revival qui est plutôt agréable et surtout tu dis putain en fait ouais t'as laissé aussi une trace. Si t'es invité en tant qu'ancien, c'est que t'as aussi laissé une trace dans ton club et dans le rugby aussi. Voilà, donc chapeau à ce que tu fais en tout cas.
Bien sûr, mais moi, tu sais, la valeur fondamentale, c'est que les joueurs qui viennent, ils ont envie de venir. Donc les mecs, ils viennent pour prendre du plaisir. Et sincèrement, l'aspect sportif est sympathique. C'est plus pour les gens, parce que sincèrement, on commence à devenir vieux et c'est de plus en plus dégueulasse comment on joue. Mais par contre, les mecs, le fait de se retrouver, de donner le sourire aux autres, c'est juste le truc primordial, quoi. Les mecs, ils sont contents d'être là et tu sens qu'ils revivent un truc qu'on n'a plus l'habitude de vivre, parce qu'on a lâché, on a lâché les vestiaires, on a lâché les terrains. Mais du coup, ben pendant 24, 48 heures, un peu plus, on se retrouve et on passe du bon temps. C'est assez sympa.
Messieurs, avant de poursuivre vos échanges qui sont passionnants, je vous propose, Raph, quand même, que tu nous dresses le portrait de Yann Delegue façon Poulain Raffut. Tu vas voir, Yann, c'est un peu différent et c'est maintenant.
Bah, je me suis un peu spoilé quand même en amont, mais il faut être quand même cintré, comme je le disais, complètement abruti, complètement fou pour envoyer 50 mecs jouer sur la neige. C'était donc le fameux tournoi des six nations. Et je vous passe les
Des
détails
six
des apéros, des
stations.
présentations, des troisièmes mi-temps. Des six stations, pardon, j'ai dit quoi, des six nations?
Oui.
Ah,
Ouais,
c'est des
c'est un
six
petit
stations.
événement qui ressemble.
Ah, ouais, le jeu, mais bon, moi, je préfère les six stations hein, maintenant. Tournoi des six stations, bon, je vous passe les détails, comme je disais, vécu à 3000 mètres d'altitude avec une ribambelle d'encoches, pour la plupart d'anciens internationaux, accompagnés d'amateurs bien sympas. Aujourd'hui, ça n'est plus sur la neige, on vient de vous le dire, c'est sur l'eau et ça se joue avec Yann Delegue en capitaine de navire. C'est le jeu de mots. Yann, c'est avant tout un artiste du rugby, est un gosse dans un corps de grand qui a gardé au fond de l'œil la bonne connerie du fond du bus pour créer un tournoi sur une barge. Aussi, encore un autre jeu de mots,
Qu'est-ce
hein.
qui
Le
se
barge, il faut être
passe?
complètement barge. Et rassembler ce que la terre du rugby international fait de mieux en termes de retraités, eh bien oui, il faut être barge. Voilà l'autre mot de jeu de mots bien pourri. Bon, bref. Et je pense que c'est en côtoyant dans les années 90 les anciens du RCT qu'il s'est dit que tout était possible, même les trucs les plus fous. Yann, c'est Vienne, c'est Toulon, c'est Toulouse, c'est Castres, c'est 20 sélections en équipe de France, c'est 3 boucliers, une Coupe d'Europe, un titre de champion du monde, moins de 18 en 92. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Fils de Gilles, que j'ai eu l'occasion de connaître, moi, à Nice notamment, joueur lui aussi au RCT, vous l'avez compris, ça coule dans le sang. Chez les Delegue, le ballon ovale. Et je vous l'assure, la troisième mi-temps aussi. On va évidemment, bien sûr, parler de cette finale. Yann, au Stade de France, est-ce que tu partages l'avis de nombreux observateurs et de spécialistes, on va dire, que l'opposition Toulouse-La Rochelle, c'est vraiment la finale rêvée?
Ah ouais, bien sûr, c'est la finale rêvée déjà parce que c'est deux clubs magnifiques, deux équipes qui dominent notre championnat domestique, voire même le championnat européen quasiment. Donc ouais, c'est le grand rendez-vous dont tout le monde rêve. En plus, ce qui est génial aussi, c'est que c'est deux villes très très rugby avec plein de supporters qui sont passionnés. Et on l'a vu récemment hein, avec le titre de champion d'Europe de La Rochelle, ça fait aucun doute. Donc évidemment, ça va être une montée en puissance jusqu'à samedi qui est génial. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Après, au niveau pronostic, putain, on est sur du 50-50. Vraiment, c'est des cadors du rugby. C'est ouf. Il y avait un avantage pour Toulouse en termes d'expérience. Mais ça, c'était avant
C'était
la
avant.
prochaine Coupe d'Europe. Voilà, exactement. Donc maintenant, on sent cette équipe de La Rochelle qui a les bras musclés, qui relève les manches. Et tu les sens en pleine confiance à l'image de ce qu'est aussi le Stade toulousain. Donc en termes de confiance, ils sont sur un pied d'égalité. En termes de niveau, c'est pas loin aussi. Peut-être un avantage de puissance chez La Rochelle, peut-être un avantage de jeu dans le désordre côté toulousain. Mais malgré tout, on ne sait pas qui va relever la tête à la fin, quoi.
Yann, il y a peut-être un élément que tu n'as pas évoqué qui peut jouer, c'est la fraîcheur. On a senti le Stade Toulousain très tranquille contre le Racing. Alors, On peut toujours chipoter sur la performance du Racing. En revanche, La Rochelle a paru un peu plus émoussée. Alors peut-être que l'UBB a donné plus de fil à retordre. Est-ce que le titre de champion d'Europe, qui a été probablement dignement fêté, et on leur souhaite d'ailleurs, parce que ça se fête un titre de champion d'Europe, est-ce que la fraîcheur peut jouer sur cette finale ?
Non, mais moi, je pense, je pense que la fraîcheur sera à égalité des deux côtés. D'abord, parce qu'effectivement, ils ont fait la fête, et ce n'est pas la fête qui les a fatigués, parce qu'au contraire, ça fait du bien, je pense. Ils n'ont pas joué le match. Non, mais c'est tellement mental, le physique.
J'imagine.
Ça fait du bien. Après, ils ont 8 jours pour récupérer. Le match d'après, en top 14, ils ne l'ont pas joué. Là, c'était l'équipe bis qui est partie, donc ils sont reposés.
Ils ont quand même battu le Stade français. Avec, c'était pour Raph, ça. C'était pour Raph.
Donc, si tu veux, en termes de récup, après, ils ont eu une semaine des barrages où ils n'ont pas joué non plus. Donc, en termes de récup, ils sont bien. Et si tu les as retrouvés un peu plus fatigués, d'abord, je pense qu'ils ont levé le pied parce qu'ils avaient pas mal d'avance au score à un moment donné et qu'ils étaient déjà la moitié la tête dans la finale, je pense. Et d'autre part, on les a sentis plus fatigués parce qu'ils ont joué en plein après-midi. Et ils faisaient juste un canon de ouf. Et donc, c'est pour ça que je pense, sur les organismes, c'est un peu plus compliqué sur ce match-là. Mais là, quand tu es à 8 jours d'une finale, la fraîcheur physique, j'ai pas de doute. Je pense qu'ils sont à égalité en termes de fraîcheur sur les deux équipes.
Mais je voulais savoir, Yann, La Rochelle court après son premier Brennus. Bon, Toulouse en a glané quand même pas mal. Est-ce que tu crois que ça peut être ce supplément de motivation, ce supplément d'âme qui peut un peu compenser ce qu'on vient de dire, ce manque de fraîcheur de la part de La Rochelle ? Est-ce que cette motivation du premier Brennus, ça peut être soit une pression négative, soit ce supplément de motivation ?
Bah, je pense que la motivation, ils l'ont, sincèrement. Et puis, j'ai l'impression que des deux côtés. Parce qu'effectivement, La Rochelle n'a jamais gagné le bouclier. Donc, c'est le Graal pour eux. Sachant en plus que faire un doublé, ce n'est pas rien. Ce n'est pas arrivé à beaucoup de clubs. Bon, c'est très important. Mais on sent que les Toulousains aussi, ils ont vécu une saison dernière où ils n'ont rien gagné. Ils l'ont en travers. On les sent surmotivés également. Donc, je pense que ça risque de s'annuler. Le seul petit truc, c'est que j'hésite entre la confiance accumulée de La Rochelle ces derniers temps, notamment avec la Coupe d'Europe, qui justement les a mis dans une situation de pas de confort, mais où ils pensent qu'ils pourraient ne plus les arrêter. Donc ça, c'est vachement important. Et en même temps, ils jouent Toulouse, qu'ils ont souvent des difficultés à battre. Et l'expérience de cette finale de top 14 chaque année, où les Toulousains, on sait qu'ils maîtrisent l'événement. La Rochelle, sur la finale de top 14, on ne sait pas. Mais bon, j'imagine quand même qu'ils vont savoir gérer l'événement parce que quand tu arrives à le faire en Coupe d'Europe, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire en top 14.
Yann, on a le sentiment, et tu l'as évoqué, que les Toulousains sont hyper frustrés de leur saison dernière. Est-ce que tu sens chez les Toulousains aussi ce petit sentiment d'amertume d'avoir vu les Rochelais soulever 2 fois de suite la Coupe d'Europe, quoi ? On sait qu'il y a une forme de rivalité, on sait que Dupont il veut ramasser tous les trophées, on sait qu'Entamac est pareil. Enfin, beaucoup de joueurs sont comme ça, mais là, du coup, est-ce qu'ils peuvent se nourrir de ce sentiment d'amertume, de jalousie presque ?
Ouais, ce qui est juste naturel, en fait, hein, quand tu es un gagnant, tu as envie de gagner toutes tes compétitions, tu vois les copains d'un autre club le faire, tu te dis, on a envie que ce soit nous, il y a une frustration, bien évidemment. Mais ils s'en nourrissent, à mon avis, même hein, pour ce match-là. Après, je pense qu'ils préfèrent quand même que ce soit La Rochelle plutôt que le Leinster, parce qu'il y a quand même un côté cocorico, toi, et puis c'est des potes avec qui ils jouent en équipe de France.
C'est sûr.
C'est important pour eux, malgré tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es compétiteur, ben, tu as un peu la jalousie parce que tu aimerais être à leur place, parce que tu sais que c'est des moments dans une carrière qui marquent où tu kiffes terrible, quoi.
Yann, on va pas parler de. Alors, moi, tu sais que j'ai sur le plan stratégique ou technique, je suis une pompe à roulette. Hein, on me demandait d'aller tout droit. Hein, c'est jamais super une passe. Mais
tu le faisais
vu
bien.
Que je t'ai, toi, qui m'a mis aux fraises 2-3 fois à l'époque, justement, sur des 4 devs, sur des fins de passe. Enfin, bref, on va parler sur le plan du jeu. Il y a quand même un sentiment d'avoir 2 oppositions de style. D'un côté, La Rochelle, avec ce côté hyper puissant, ce jeu direct et frontal. Et de l'autre, le jeu que tu connais et qui te régale et que tu as régalé à travers sous le maillot de Toulouse. Le jeu de mouvement, tu parlais de ces prises d'initiative. Il y a quand même 2 styles, pas opposés, mais avantage puissance La Rochelle, avantage stratégique ou technique, ou en tout cas gestuel côté Toulousain. Jeu de main, jeu de Toulousain.
Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est vrai que c'est ça aussi qui est génial dans cette finale, c'est qu'il y a des oppositions de style. Et dans un rugby un peu formaté, on a l'impression de voir les mêmes matchs tous les week-ends. Bon, ben là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est clairement dit, c'est clairement ressenti que La Rochelle, c'est les muscles, c'est solide, c'est du frontal, autant derrière que devant. Donc, c'est assez clair. Et les Toulousains, effectivement, ben, dans leur jeu traditionnel de jeu de mouvement, de faire vivre le ballon, de prendre les adversaires sur la vitesse, sur la créativité. Donc, il y a cette opposition de style qui va certainement nous régaler. Après, attention, le Stade Toulousain, souvent dans les finales, est très pragmatique. Donc, c'est pas forcément du jeu à droite à gauche, c'est du jeu comme il faut. Ils sont capables aussi, et ils nous l'ont prouvé, de taper 150 fois dans le ballon parce que ils mettent un point d'ancrage sur la défense, sur un truc qu'ils auraient vu à la vidéo en disant là, on ne va pas les jouer à cet endroit du terrain, on va taper là. Ils sont aussi capables d'être assez cliniques avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Hein. Je pense à Mike Dupont, mais à Ramos aussi, qui utilise très bien son jeu au pied. Donc, souvent, on a vu des finales du Stade Toulousain où il y avait un jeu pas minimaliste, hein, mais un peu en deçà par rapport à une stratégie hyper maîtrisée. Et tu regardes dans les derniers titres de Toulouse, le pied a été un facteur, un secteur très important pour le Stade Toulousain.
Ouais, le pragmatisme, c'est, je pense, ce qui résume le mieux de la philosophie toulousaine en finale. Yann, justement, le pragmatisme, il est monnaie courante du côté du stade Rochelet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'Irlande, finalement, dans le jeu Rochelet?
Alors, il y a de l'Irlande dans le fait de déjà de rien lâcher du début à la fin, ça c'est sûr. Il y a de l'Irlande dans le fait de concasser les mecs en face, à la fois défensivement comme offensivement, avec des vagues qui arrivent. Après, il y a pas de l'Irlande dans l'animation offensive. Parce que l'animation offensive des Irlandais depuis quelques années, elle est vraiment léchée, elle est millimétrée, elle est clinique, avec du jeu en mouvement, avec des phases de jeu qui se ressemblent beaucoup, mais avec plusieurs sorties. Que ce soit au large, dans le dos, au pied, c'est un jeu vraiment maîtrisé offensivement. La Rochelle, on n'est pas à ce niveau-là offensivement. Ils sont plus dans le frontal, donc c'est peut-être la nuance avec les Irlandais. Mais sinon, effectivement, sur l'appétit physique de concasser l'adversaire, ouais, c'est les Irlandais pour ça.
À quel match tu t'attends, Yann,
Et à quel match on peut
concrètement?
s'attendre? Je pense à un match peut-être un petit peu fermé au début, mais quand une des équipes aura pris le score, tout va se débrider, à mon avis. Mais les premiers points vont être importants et c'est un match qui va, à mon avis, être électrique dans les premiers instants parce que les deux équipes vont vouloir marquer en premier, à mon avis. Il y aura de l'observation, mais avec un défi physique énorme. Chacun voudra gagner le centimètre. Je pense que ça va commencer par ça. Et après, quand une équipe aura pris le score, ça va, à mon avis, débrider un peu la partie.
Cette passe d'armes entre Hugo Mola et Ronan O'Gara, pour vous, c'est quoi? C'est du folklore? C'est pour amuser les médias ou il y a un vrai antagonisme finalement par rapport à cette finale?
Oh, moi, à mon avis, c'est ouais, c'est du folklore. C'est pour alimenter un peu les journaux aussi.
Ça marche bien.
Ouais, bien sûr, mais c'est un peu le jeu, tu vois. Voilà.
T'as connu ça avec Guinovès, Yann?
Ouais, mais avec
On l'a
une
connu,
équipe
Guinovès,
internationale.
Mazzini, avec René Buscatel, avec on a connu justement ces, ouais, ces passes d'armes. Alors parfois ça a monté très très haut et très très loin, hein, mais en tout cas sur le terrain, peut-être à la différence de notre époque où, comme je dis toujours, hein, avant on se motivait un peu à grands coups de boule dans les vestiaires, on sortait commotionné avant le début du match. Aujourd'hui, les mecs, je pense pas que ce soit le genre de pièce qu'il faille leur mettre à travers les journaux pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils se motivent face au Stade français quand on avait nos confrontations. Aujourd'hui, les mecs, c'est, enfin, je pense pas qu'ils se nourrissent de ça comme nous, on pouvait s'en nourrir il y a 20 ans. Je sais pas ce que tu en penses, Yann, mais ça.
Oui, et puis l'événement est trop fort. Il n'y a même plus à chercher de source de motivation quand tu joues une finale. Là, ça y est, c'est au paroxysme. Et puis il l'annonce clairement des deux côtés. Parce que tu sais, des fois, il y a le jeu de non, c'est lui qui est favori ou c'est lui qui est favori. Là, j'entends pas trop ça des deux côtés. Hein. Des deux côtés, j'entends, on veut gagner. On vient pour gagner. Voilà, c'est clair. Hein.
Ben c'est un joli mot de la fin, Yann. Même si dans cette émission, traditionnellement, Yann, je suis désolé, quand bien même l'invité à 20 sélections d'équipe de France, le mot de la fin, il est pour la star de l'émission, Raph Poulain.
Ah, tu sais qu'il a enlevé le mot international, la star internationale. Je sais très bien que j'ai jamais été en équipe de France. Toujours aux portes, mais j'avais pas les clés.
Si,
Je
des moins
rajoute
de
à
20
chaque fois.
ans.
Non, non, moi. Ouais, les moins de 20 ans. Mais à la différence de Yann, j'ai pas été champion du monde, même si on était quand même sacrément armé. On avait une équipe, mon pauvre, en Australie, là. Bon, bref, on va pas refaire le monde. Non, ravi de t'avoir reçu, Yann, parce que c'est vrai qu'on se croise une fois tous les 2 ou 3 ans sur des événements rugby. C'est toujours un plaisir de se, même si on n'a pas de grands souvenirs ensemble, c'est toujours un souvenir de te croiser, d'avoir ton point de vue sur le rugby, moi que j'aime beaucoup. Et puis derrière, je me suis régalé il y a 10 ans maintenant, presque jour pour jour, sur la neige avec toi. Donc, chapeau pour cet événement. Et je pense vraiment qu'à mon avis à Paris, vu le boulot que fait Pierrot avec la Seine, franchement, ça pourrait être un putain d'événement sur Paris et sur la Seine. Et à ce moment-là, parce que moi, ce qui me fait peur, quand c'est pas les internationaux de venir à Toulouse, mais c'est moi qui me fais peur. Mais à Paris, je serais peut-être un peu plus en confiance. Tu vois, je serais sur mon terrain, sur ma Seine, et avec grand plaisir pour venir à ce moment-là.
Bah écoute, merci beaucoup en tous les cas pour l'invitation. Tu sais que la porte est ouverte, que si tu veux te jeter dans la Garonne, t'es invité. Et un grand merci de m'avoir accueilli dans l'émission. Et c'est cool. Et voilà, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.
Allez, on vous donne rendez-vous évidemment du 29 juin au 2 juillet à Toulouse, sur le port de la Dorade, pour profiter de ces 4 jours de fête, de rugby, de convivialité. L'Eden Park Water Rugby, ce sera the place to be, donc le dernier week-end de juin, premier week-end de juillet. N'hésitez pas, surtout, vous allez vous régaler. Et nous, on va enchaîner en attendant avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie, Raph, dans Poulain Rafut. Un coup de gueule hein, pour finir cette émission. L'éviction lundi de Xavier Garbajosa de son poste de manager du Loup. Ça ne t'a pas plu. Le Loup qui a pourtant fini troisième hein, du top 14 derrière Toulouse et La Rochelle. Et pourtant, Garba, qui a rencontré quelques soucis hein, avec quelques joueurs et membres du staff, est viré après seulement un an de présence au club.
Oui, c'est dur pour Garba parce que je pense que c'est vraiment un fin stratège au-delà du bon mec que moi j'ai connu en tant que joueur il y a quelques années maintenant, il y a une décennie. Garba qui est passé par Montpellier, on savait que Montpellier a traversé une crise, il a été évincé de Montpellier, il se retrouve ici au Loup, il finit, tu l'as dit, troisième de la saison régulière avec, voilà, avec pas mal de bons résultats aussi faits. À l'extérieur, et puis comme tu l'as dit, je dirais un verre dans la pomme, qui n'est pas obligatoirement les leaders du jeu, en tout cas dans les vestiaires, mais peut-être voilà, un ancien ou des anciens qui auraient peut-être pu gangréner et aller parler dans la bouche de certains leaders. Et puis voilà, quand tu as un vestiaire en fait, qui fait front face au manager, on le sait, hein, c'est le manager qui saute. J'ai déjà vu ce genre de situation dans d'autres clubs, et je ne les citerai pas, je ne citerai personne. Aujourd'hui, Garba, je ne dirais pas, et pas victime, pas coupable, en tout cas, je pense qu'il est co-responsable, et je suis persuadé que ce mec prend sa part et ses responsabilités, mais je pense qu'il n'est pas le seul, et quand l'ambulance passe, c'est pas la peine de leur tirer dessus. Donc Garba évincé, pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt en fait d'une problématique un petit peu plus profonde au sein du Loup. Le Loup qui devra franchir une étape justement pour pouvoir s'installer dans les six, pour pouvoir atteindre le Saint Graal, mais en l'état actuel, peu importe le manager, je pense qu'il va falloir régler certains trucs en interne, et peut-être que Garba a été victime justement de ce petit verre dans la pomme. Voilà.
Et comme l'a dit l'ancien demi-mêlée Alexis Balès du stade Rochelet qui a bien connu Garba, il y a quand même une forme d'injustice et le rugby se footballise un peu. Allez, ça c'est dit. Raph, il y a aussi du changement du côté de la Fédération française de rugby. Florian Grill a été élu président de la FFR. Ça a été officialisé il y a quelques instants. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Bah déjà, Arnaud, je pense qu'on a été assez intelligent de ne pas avoir pris parti quand il y a eu toutes ces affaires qui sont sorties. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Bernard Laporte en tant qu'entraîneur au début de ma carrière. Donc, je pense que sur le terrain, Bernard, il n'y a pas photo. Après, force est de constater que, bah, y a eu des petites problématiques qui ont fait que le rugby s'est un petit peu gangréné avec toutes ces affaires extra-sportives. Connaissant Florian Grill depuis une bonne vingtaine d'années, qui est un des meilleurs amis de mon entraîneur Réchel, Dudu, Philippe Duhamel, que tu connais bien toi aussi, je connais le bon mec, je connais les valeurs qu'il porte depuis toutes ces années où il est président justement de la Ligue d'Île-de-France de rugby. C'est un mec qui, voilà, qui a envie de redonner le pouvoir, comme on nous l'a vendu il y a quelques années, au rugby amateur, parce que le rugby amateur, on a bien besoin. Arnaud, tu l'as bien vu, on a beaucoup parlé du top 14, on a beaucoup parlé de la Pro D2, on a beaucoup parlé de l'équipe de France. On a l'impression que le rugby se porte bien, mais le rugby amateur traverse aussi une crise identitaire. Aussi, on voit beaucoup de clubs qui sont obligés de fusionner. Rendons le pouvoir à la fois politique, médiatique et aussi financier aux clubs amateurs, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et je sais que Florian Grill sera l'homme idoine, et ça c'est Jérôme Papin qui m'a fait rentrer sur Eurosport, qui aimera ce mot, sera l'homme idoine à mon avis avec toute son équipe. On a reçu Philippe Spanghero notamment. Voilà, il y a des gens qui sont doués, qui sont compétents et qui sont peut-être pas dans une quête de lumière, de reconnaissance ou de gloire ou de pouvoir, mais plus de partager des compétences pour que le rugby se porte mieux sur l'extra sportif. En tout cas, je suis persuadé que Florian sera la personne qui pourra porter haut et fort les couleurs à la fois de l'équipe de France, mais aussi de tous ces petits clubs amateurs qui en ont vraiment besoin. Donc, je pense qu'il représentera le rugby qu'on aime et qu'on a aimé, ce rugby de clocher, sans obligatoirement revenir en arrière. Donc, ravi de cette élection et que Florian maintenant se mette à table au boulot. Et je suis plus trop inquiet pour le rugby français. Voilà.
Voilà, bon, en tout cas, l'invitation est lancée. Si Florian Grill veut participer à Poulain Rafut avant la fin de l'année, il est le bienvenu. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Raph, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, peut-être pour la dernière, au lendemain de cette belle finale de Top 14. On se retrouve donc avec du rouge et noir ou du jaune et noir. À très vite. Au revoir.
Grand plaisir. Merci beaucoup, Arnaud. Et merci bien sûr à Seb Petit qui est à la réalisation de cette émission. Très bon week-end rugby. Que le meilleur gagne. Et à la semaine prochaine. Salut.